reconnaissant de savoir que vous persévérez, que Dieu vous donne la persévérance à Saint-Quentin. Cette église qui, depuis des années, continue de se réunir parce que Dieu vit en vous. Et ça nous encourage. J'ai prié et puis on va commencer. Seigneur, on te remercie parce qu'effectivement tu es présent et tu es notre grand bien. Et on te remercie pour ta présence ici à Saint-Quentin, dans chacun des frères et sœurs qui sont là. Et on veut te remercier parce que tu veux nous parler par ta parole. Ma prière ce matin, c'est que ce soit toi qui parles par ta parole. Que ce message soit utile et que tu le fasses fructifier, vivre dans nos vies. Amen. Alors avant de commencer, je voudrais rendre à César ce qui est à César et dire que ce que je vais dire ce matin est assez largement inspiré d'un livre que j'ai lu, un livre qui s'appelle « Puis-je faire confiance à Dieu ?» de Jerry Bridges, qui est un livre qui m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, ce serait bien aussi que ça parle à d'autres. Donc, on va parler ce matin de la confiance à Dieu. « Puis-je faire confiance à Dieu ?» Il y a la réponse théorique, la réponse des chrétiens, bien sûr qu'on peut faire confiance à Dieu. Et puis, il y a la réalité de nos vies, la réalité de nos cœurs, où on voit que nous restons inquiets, anxieux, angoissés, et que c'est assez dur de faire confiance à Dieu au quotidien. À l'image de ce chrétien qui vient de perdre son travail qu'il a eu tant de mal à avoir, et qui se dit, mais est-ce que Dieu veut vraiment mon bien ? À l'image de ces parents chrétiens qui voient leur enfant grandir et leur enfant qui s'enfonce de plus en plus dans le rejet de la foi et qui dit « Mais est-ce que Dieu va un jour le sauver ?» À l'image de ce couple qui vient d'acheter une maison et qui entre dans la maison et quelques semaines plus tard se rend compte que la toiture est à refaire et que ce n'était pas du tout prévu et qui se demande « Mais pourquoi Dieu permet ça ?» Ou de ce jeune qui se dit « Mais mes amis m'invitent à partir en vacances et je sais très bien que ça va être n'importe quoi. » Ça va être que péché sur péché, mais que si j'y vais pas, je vais être exclu. Est-ce que Dieu veut vraiment mon bonheur ? Ou à l'image de cette chrétienne qui se demande quel doit être son choix pour ses études, qui aimerait tant que Dieu lui donne la direction qu'elle doit prendre et qui se dit « Mais est-ce que Dieu va agir si je fais le mauvais choix ?» À un moment donné, dans nos vies, tous, on se pose la question. Puis-je faire confiance à Dieu ? Et bonne nouvelle, la Bible répond clairement oui. Oui, je peux faire confiance à Dieu. Et ce livre nous donne trois réponses bibliques, trois appuis bibliques pour affirmer dans nos vies quand vient l'inquiétude, oui, je peux faire confiance à Dieu. Nous pouvons faire confiance à Dieu, et ça sera nos trois points ce matin. Premier point, parce que Dieu est souverain. Nous pouvons faire confiance à Dieu, ça sera notre deuxième point, parce que Dieu nous aime. Et nous pouvons faire confiance à Dieu parce que Dieu est sage. Souveraineté, amour, sagesse, S-A-S, comme un sas, entre deux portes. Entre la porte de l'inquiétude, de l'angoisse, et la porte de la confiance. Le sas de la confiance, c'est se rappeler que Dieu est souverain, amour et sagesse. Premier point. Nous pouvons faire confiance à Dieu parce qu'il est souverain. Souverain. Psaume 115, verset 3, nous dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Souverain, ça veut dire faire tout ce qu'on veut. Et Dieu fait tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut le limiter dans son pouvoir. Rien ni personne. Pas un élément naturel, pas un être surnaturel, pas Satan. Personne. Il fait tout ce qu'il veut. Il est le roi des rois. Le Seigneur de Seigneurs, le maître de l'univers, le boss des boss. Imaginez que Dieu ne soit pas souverain. Imaginez qu'on ait la promesse d'un Dieu qui nous aime, qui est sage, mais qui ne serait pas souverain. Mais quelle angoisse ! Imaginez qu'à toutes les promesses de Dieu, il faille rajouter des expressions du type « Je te promets que je ferai tout mon possible pour » ou « Je te promets que normalement, si tout va bien, » ou « Moi, Dieu, je fais une promesse, mais Bon, je vais faire tout mon possible. Après, le reste, ça ne m'appartient pas. Non. Dieu n'est pas ainsi, il est souverain. En fait, Dieu n'est pas comme nous. Moi, je travaille dans une mairie, et à un moment donné, une de mes missions, ça a été de rassurer des habitants qui avaient peur, parce qu'on avait un projet de travaux, ils avaient peur, toute une série d'inquiétudes, que ces travaux dégradent leurs conditions de vie. Et ma mission, c'était d'aller les voir et de faire le maximum pour les rassurer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beau faire le maximum, à un moment donné, face à leurs inquiétudes, je ne pouvais pas répondre. Et ils me disaient, et s'il y a quelqu'un qui fait, ou si les lois changent, ou si aux prochaines élections, le maire change, et puis... Et en fait, à la fin, je me disais, oui, faites-nous confiance, on va faire le maximum, après le reste, effectivement, ça ne nous appartient pas. Et je n'ai pas pu vraiment les rassurer. Et en fait, s'inquiéter, c'est d'abord oublier que Dieu n'est pas comme nous. Qu'il est souverain. 1 Timothée 6, verset 15. Il est bienheureux et seul souverain. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Daniel 4, 32. Il agit comme il le désire, avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu ? » Dieu est souverain sur les grandes choses, sur les corps célestes. Mais Dieu est souverain aussi sur les petites choses. Matthieu 10, 29. « Pas un moineau ne tombe sans l'accord de votre Père. » Il est souverain sur tout. 1 Chronique 29, verset 12. « C'est toi qui domines sur tout. » Dieu est souverain. Et pour le montrer dans la Bible prend des exemples extrêmes. Qu'est-ce que personne ne maîtrise ? Qu'est-ce que personne, surtout dans le Nord, a vraiment entre ses mains, qui fait que quand on organise l'été, des événements, on est toujours obligé d'avoir des plans B, c'est la météo. Personne ne maîtrise la météo. Job 37, verset 6, il dit à la neige, tombe sur la terre. Il dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Psaume 147, verset 8, il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Verset 15, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. Il fait tomber la neige, pareil à de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace sous forme de grêlon. Qui peut résister devant ce froid qui provoque ? Il envoie sa parole, il les fait fondre. Il fait souffler son vent et l'eau. Il coule. Dieu est souverain. Et on le voit, le déluge, la terre remplie d'eau. Les plaies d'Égypte, le Nil ensanglanté, l'obscurité, les invasions de sauterelles, les grenouilles, les mouches, à la naissance de Jésus. Il déplace une étoile pour montrer où Jésus va naître. Jésus qui calme la tempête, etc., etc. Dieu est souverain sur toute la création. Et donc, si Dieu est souverain sur la nature que personne ne maîtrise, à combien plus forte raison devrions-nous avoir confiance sur sa souveraineté dans nos vies ? Si Dieu tient dans toute sa main la création, à combien plus forte raison devrais-je lui faire confiance pour ma vie ? Sauf que si vous êtes comme moi, oui, ça nous rassure, mais pas complètement. Parce que vous dites, Dieu souverain sur la nature, en fait, oui, ça ne m'étonne même pas. Il est le créateur, c'est normal. En fait, ce qui m'inquiète, ce n'est pas ce que Dieu a dans sa main, c'est plutôt ceux qui ne sont pas dans la main de Dieu, les hommes. Et eux, justement, ils m'inquiètent. Parce qu'on est tous dépendants des décisions des hommes, chaque jour. Le travail, les études, les autorités, l'argent, la santé, tous. On est dépendant des autres. Et tous, on a des phrases qui reviennent souvent dans nos vies. J'espère qu'ils vont accepter, je ne sais pas s'ils vont vouloir, j'attends leur réponse. Et ça nous stresse. Et ça nous inquiète. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais la Bible dit, Dieu est souverain, sur tout, y compris sur les hommes. Et là aussi, elle prend les exemples les plus extrêmes. Pharaon. Les puissants du monde. Les armées les plus puissantes, les nations les plus puissantes. La Bible montre que tout ça, c'est entre les mains de Dieu. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Psaume 33, verset 10 à 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les peuples. Alors souvenons-nous du Pharaon au temps de Moïse. Souvenons-nous des empereurs assyriens, babyloniens, des mères des Déperses, c'était les Donald Trump, les Vladimir Poutine de l'époque, les maîtres du monde. ils n'ont pas pu faire autre chose que se plier à la volonté de Dieu. Aussi puissant était-il. Souvenons-nous de la conquête de Canaan, ce petit pays d'Israël, face à des armées puissantes. Ils ont été vaincus. Aussi puissants étaient-elles, parce que Dieu est souverain, surtout. Aucun être humain, même le plus puissant, n'échappe à la souveraineté de Dieu. Et même quand il pêche, et c'est un grand mystère, même quand il pêche. Pensons à l'histoire de Joseph dans la Genèse. Vous avez médité de faire le mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Genèse 50, verset 20. Et pensons à la croix. Péché de Judas, péché des dirigeants romains, péché des juifs, péché des foules. Et tout ça était sous la maîtrise de Dieu qui était en train de sauver l'humanité. Dieu est souverain sur tous les hommes, en toutes circonstances. Alors faisons-lui confiance. Mais peut-être que ça ne vous rassure pas encore. Et si vous êtes comme moi, ça ne vous rassure pas encore totalement. Parce qu'il y a quelque chose qui nous inquiète encore plus que la nature, que les hommes. Il y a quelqu'un qui vous inquiète encore plus. Et cette personne, c'est moi. Et si je fais mal? Et si je prends une mauvaise décision dans ma vie? Et si ma décision est orientée par un péché? Ou si même je me trompe, je prends la mauvaise sortie quand je suis sur la route? Et si j'ai trop péché? Et si j'étais aussi tellement nul? Dans ma vie, je fais tellement de mauvais choix que j'ai tout foiré. Est-ce que Dieu peut encore être aux commandes de cette vie? Dieu est souverain sur tout. Et nous faisons partie de ce tout. La Bible ne dit pas « Dieu est souverain sur tout, sauf sur vous ». Proverbe 19, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui l'accomplit. » Nous n'échappons pas au contrôle de Dieu, bien heureusement. Alors, quelle que soit ta crainte ce matin, ton angoisse, ton doute, ta lutte, sache-le, crois-le, rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Il est souverain. Et Dieu nous dit, n'ayez pas peur, je maîtrise, je garde le contrôle. Ce que je t'ai promis, je peux le faire, je vais le faire. Alors fais-moi confiance, je suis souverain. Premier point, Dieu est souverain. Deuxième point, nous pouvons faire confiance à Dieu parce qu'il nous aime. Dieu est souverain, mais ça ne suffit pas. Imaginez que Dieu soit souverain mais qu'il ne nous aime pas. En fait, ce serait une très mauvaise nouvelle. Puissant, il fait ce qu'il veut, sauf que il n'a pas du tout un plan d'amour pour nous, on pourrait être très très inquiet. Ou imaginez que Dieu soit sage, mais que dans cette sagesse, dans son plan, on n'ait aucune importance. Ce ne serait pas très intéressant pour nous rassurer. En fait, pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait de l'amour. Petit test. Imaginez, vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aide. À qui demandez-vous de l'aide? Quelle est la personne à qui vous dites, c'est cette personne à qui je dois passer un coup de fil pour demander un coup de main? Ben, je suis sûr que cette personne, c'est une personne qui vous aime. Une personne qui vous aime vraiment, plus que quelqu'un qui est compétent ou puissant. Parce que on sait qu'on peut compter sur elle, parce qu'elle nous aime. Et bonne nouvelle, la Bible dit que celui qui vous aime le plus, c'est Dieu. Et elle le fait par la plus grande des preuves. Comment Dieu prouve son amour envers nous? Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous aime au point de dégrader complètement ses conditions de vie pour vous? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est prêt de passer d'une richesse opulente à une pauvreté extrême pour vous? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est prêt à te dire « Ok, je t'aime tellement que je vais aller voir mon père et je vais lui demander carrément de t'adopter et que tu fasses partie de la famille, que tu deviennes mon frère et que mon héritage, ça soit ton héritage ?» Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui dit « Ok, je t'aime tellement que je suis prêt à mourir pour toi. » Au point de dire « T'es condamné à mort, t'es coupable. Je vais prendre cette condamnation, je vais être condamné à mort à ta place. Ben, » si vous êtes chrétien, oui, vous connaissez quelqu'un qui vous aime à ce point, et c'est Jésus. Et il est notre compagnon à jamais. Alors les amis, pour trouver la confiance, c'est la croix qu'il faut regarder. C'est la croix qu'il faut regarder et entendre Dieu dire « Regarde combien je t'aime. J'aurais pas pu plus t'aimer. J'ai donné mon Fils pour toi. Et confiance, je t'aime en Jésus-Christ. » Il y a un proverbe qui dit, ou un dicton qui dit « Les amis de mes amis sont vos amis. » Ou un truc comme ça. « Les amis de mes amis sont vos amis. » Et c'est vrai que parfois on est aimé parce qu'on est l'ami d'un ami. Cet été, on était en vacances, et en vacances, on nous a prêté une maison pendant un mois. Une belle maison. Une maison de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne verra peut-être jamais. Et quand on est arrivé dans cette maison de quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré, il y avait un petit mot qui nous accueillait en disant « Bienvenue, on est trop content que vous soyez là. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Notre maison, c'est votre maison. » On ne les connaissait pas. Et pourquoi ? Pourquoi nous ? Bah parce qu'on avait une amie commune. Et on a été traités comme les amis d'un ami. Vraiment. Eh bien, si vous êtes en Christ, si vous avez accepté le salut de Jésus, vous êtes aimé comme Jésus. Vous êtes, Dieu vous aime comme il aime son Fils. Et c'est merveilleux, parce que la Bible nous dit que le Père aime vraiment, vraiment, vraiment le Fils. Et nous sommes donc vraiment, vraiment aimés comme le Fils. Comme le dit l'auteur du livre, les raisons de nous aimer ne sont pas en nous. Mais Dieu ne peut pas nous aimer moins qu'il aime Jésus. Et ça veut dire que quand on doute, qu'on perd la confiance, parce que est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Eh bien, ça veut dire que, en fait, notre vie ne rentre pas en ligne de compte dans l'amour que Dieu a pour nous. Notre passé, nos fautes, nos péchés, nos échecs, nos chutes, aussi moches soient-elles, honteuses soient-elles, répétées soient-elles, tout ça ne peut jamais. Jamais faire que Dieu nous aime moins si nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est une formidable, formidable, un formidable appui pour la confiance en Dieu. Parenthèse fondamentale. Ce point, on a trois points ce matin. Dieu est souverain, Dieu nous aime, Dieu est sage. Ce point, c'est le seul qui ne concerne pas tout le monde. Ce point, il concerne ceux qui sont en Christ. Dieu nous aime en Christ. Et donc, ce point concerne ceux qui croient que Jésus est leur sauveur. Est-ce que vous êtes de ceux-là ? Est-ce que tu es de ceux-là ? Si ce n'est pas le cas, si ça te fait réfléchir, je t'invite à parler à un des chrétiens, à un des membres de l'Église, si tu veux en savoir plus. Je ferme la parenthèse. Dieu nous aime, mais souvent là aussi, parfois, on en doute. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle les circonstances qui fait qu'on en doute. Ok Dieu, je sais que tu m'aimes en Christ, mais Dieu, mais pourquoi cette galère ? Mais Dieu, mais si tu es souverain, mais pourquoi ? Pourquoi ce deuil ? Pourquoi cette maladie ? Pourquoi je suis comme je suis ? Pourquoi ma vie, tout simplement ? Alors il y a beaucoup de complexité dans cette question de la souffrance et de la souveraineté de Dieu et de son amour, et je voudrais être ni simpliste, ni blessant, mais vous donner une idée. Une idée qui nous aide à comprendre et à garder la confiance malgré les circonstances. Une idée qu'on trouve dans Hébreux 12, 7 qui nous dit « C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le père qu'un Dieu ne corrige pas ?» Une illustration pour la comprendre. Imaginez que les bébés puissent parler. Bah, peut-être que ça donnerait ça. Alors franchement, au début, moi j'avais des super parents. Au début, c'était super, ils étaient trop gentils, ils me donnaient du lait, alors le lait, oh, quel bonheur le lait. Puis un jour, du jour au lendemain, bah, ils commençaient à me donner des trucs dégoûtants, et encore je suis poli, une espèce de purée mixée là, et en fait, j'aime pas du tout. Alors comme je peux pas parler, qu'est-ce que je fais ? Je ferme la bouche, bah, vous me croirez si vous voulez. Bah, ils me forcent. Ils me forcent. C'est pas de la maltraitance ça ? Alors, c'est pas fini. L'autre jour, ils m'emmènent, ils étaient tout contents, ils m'emmènent dans un endroit, on arrive, et là, il y a une dame. Ils m'ont demandé de prendre une aiguille, de me planter. C'est pas de la maltraitance, ça ? Franchement, je crois que dès que je sais parler, moi, je vais les dénoncer. Hein. Non. C'est absurde, hein ? Eh bien, tout comme ce bébé ne sait pas ou oublie que ses parents, enfin, juste sont bien, nous oublions que notre Père nous aime, notre Père céleste, et qu'il veut nous amener vers son plan merveilleux. Et son plan merveilleux, c'est quoi? C'est de devenir conforme à l'image de Jésus. On aime citer ce verset, Romains 8, 28. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Mais on oublie la suite. Verset 29. En effet, ce qu'il a connu d'avance, il a prédestiné à devenir conforme à l'image de son Fils. Et en fait, Dieu nous aime comme un père et il a le plus beau des objectifs. Son objectif, c'est qu'on devienne conforme à l'image de Jésus. Et donc, comme le dit l'auteur du livre, « Puis-je faire confiance à Dieu ?», on se trompe quand on cherche des signes de l'amour de Dieu dans le bonheur. On devrait les discerner dans sa fidélité, sans cesse à l'œuvre de nous conformer à l'image de Jésus. Alors les amis, quand nous doutons de l'amour de Dieu, c'est la croix qu'il faut regarder. Romains 8, 32, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui? Nous pouvons faire confiance à Dieu, parce qu'il est souverain, et nous pouvons faire confiance à Dieu, parce qu'il nous aime et il l'a démontré à la croix. Troisième et dernier point, nous pouvons faire confiance à Dieu parce qu'il est sage. Dieu est sage, 100% sage, que de la sagesse en Dieu. Ça veut dire que Dieu fait toujours le bon choix. C'est ça la sagesse, c'est faire toujours le bon choix. Ça veut dire qu'il n'hésite jamais. Il ne regrettera jamais ce qu'il a fait. « Ah, oh, je me suis trompé, je n'ai pas été sage. » Non, Dieu est sage. Imaginez que Dieu soit pas sage. On aurait un Dieu souverain qui nous aime, mais dans ce qu'il fait, il serait un peu balourd. En fait, c'est Obélix. Vous connaissez Astérix et Obélix ? Obélix, il est super sympa. Il est super fort. Mais en fait, il est juste bébête. Et Obélix, sans Astérix, qui lui dit « Oh, on se calme », eh ben, c'est juste n'importe quoi. Donc, que Dieu soit sage, c'est vraiment, vraiment un appui pour notre confiance. Il est sage. Psaume 147, son intelligence est sans limite. Nous sommes entre les mains d'un Dieu dont l'intelligence est sans limite. Romains 16, verset 27, il est le seul sage. Psaume 104, verset 24, tu as tout fait avec sagesse. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas sage et vous hésitez énormément. Et c'est très, très stressant d'hésiter énormément. Moi, avant d'acheter un objet qui vaille 1000 euros, qui vaille 10 euros, j'hésite toujours. Je regarde 150 sites internet, je compare, je regarde les avis, je mets tout dans le panier. Et puis ça met 15 plombes. Et puis même quand j'ai acheté, je ne suis pas sûr d'avoir finalement fait le bon choix. Enfin, c'est fatigant et c'est stressant. Parce que nous ne savons pas. Mais Dieu n'est pas comme ça. Tout ce qu'il fait. C'est sûr, c'est le meilleur des choix. Sa décision est toujours la meilleure. Et il l'a démontré pour notre salut. Un acte. Jésus à la croix. Tout a été accompli. Et c'est tellement bon de savoir que notre Dieu est sage. Tout est sous le contrôle d'un Dieu qui ne se trompe jamais. Et comme le dit John Newton, ça veut dire que si je pouvais modifier le moindre aspect de son plan, ben, je ne pourrais que le gâcher, parce qu'il est sage. Et parfois aussi, on en doute. On en doute parce qu'on ne comprend pas ce qu'il fait. On se dit, Seigneur, je ne comprends pas. Si j'avais ta puissance, si j'avais ton amour, mais j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça dans ma vie. Pourquoi t'as fait ça? Alors si on revient sur notre bébé imaginaire qui peut parler, on reprend cette image et on imagine que on aurait des parents qui disent « Ok, moi je vais chercher à tout expliquer à mon bébé. Et tant que mon bébé n'a pas compris, je ne ferai rien. » Et imaginez qu'ils l'emmènent se faire vacciner et qu'ils ont bien compris que le bébé, ben, il n'aimait pas ça. Et que le docteur arrive et il commence à prendre sa seringue et le bébé pleure. Et le parent dit « Attends, stop. » Il va voir le bébé, il fait « Écoute mon chéri, en fait tu sais, ne t'inquiète pas. » On est en train d'introduire un organisme sous une forme atténuée et inactivée d'un agent pathogène pour stimuler ton système immunitaire à produire des anticorps et des cellules mémoire. Bah, pourquoi tu pleures? Attends, on va expliquer. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Heureusement qu'on n'attend pas que le bébé comprenne pour le vacciner. Eh bien, la distance qu'il y a entre un bébé et un parent est bien moindre que la distance qu'il y a entre nous, créatures et Dieu créateur. Sa sagesse est infinie, pas la nôtre. Et comme le dit l'auteur du livre, ça veut dire que la paix chrétienne viendra rarement des parce que, de réponse, mais elle viendra de la confiance en un Dieu sage, à qui je dis tu sais, ton intelligence est sans limite, et je veux le croire. Et chez les chrétiens, il y a une phrase qu'on cite souvent, qui parfois est un peu énervante, mais qui est juste. Quand on n'a pas de réponse à nos pourquoi, on dit souvent le Seigneur sait. C'est une phrase à utiliser avec empathie, avec tact, mais c'est vrai, le Seigneur sait. Faisons-lui confiance. On peut toujours lui faire confiance parce qu'il est sage et son choix sont toujours les meilleurs. Conclusion. Pouvons-nous faire confiance à Dieu? Alors oui, nous pouvons faire confiance à Dieu. Et soyons honnêtes, c'est dur. Ça reste un combat. Après des années de vie chrétienne, après avoir lu ce livre, après avoir préparé ce message, je ne peux pas dire que je suis complètement guéri d'inquiétude. Au contraire. Pourquoi sommes-nous si inquiets? Pourquoi sommes-nous si souvent du mauvais côté du sas, du côté de la crainte? Pourquoi sommes-nous si inquiets? C'est la question que Jésus a posée à ses disciples dans le bateau quand il y avait la tempête. Il a calmé la tempête, il leur a dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ?» Et un jour, je lisais ce texte et je me suis arrêté, j'ai dit « Ok, Seigneur, pourquoi je suis si craintif ?» J'ai pris un papier, un crayon, et en une minute, j'avais déjà écrit 12 sujets d'inquiétude. J'ai dit à Dieu « On continue ou déjà on s'occupe des 12 là ?» Et j'ai continué la lecture et Jésus dit à ses disciples, enfin les disciples ont dit « Mais qui est donc cet homme ?» Même le vent et la mer lui obéissent. Et alors j'ai compris. J'ai compris que, en fait, je suis inquiet parce que j'oublie qui est Jésus. On n'a pas été créé pour être seul. On n'a pas été créé pour traverser cette vie seul. Il nous faut quelqu'un. Il nous faut un compagnon. Il nous faut quelqu'un qui est souverain. Il nous faut quelqu'un qui nous aime. Il nous faut quelqu'un qui est sage. Qui est-il, cet homme, souverain, sage et aimant? Ben, c'est Jésus. Et c'est lui notre compagnon. Et c'est quand on se souvient qu'il est notre compagnon, souverain, aimant, sage, que l'inquiétude s'en va. Et qu'on peut, et qu'on arrive à lui faire confiance. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, chacun. Je ne sais pas ce que ce matin te fait peur, pour aujourd'hui, pour demain, pour la semaine prochaine, pour cette année. Je ne sais pas ce qui te fait douter. Je ne sais pas quels sont tes combats. Mais si tu es en Christ, sache que tu as un compagnon. Il est là. Et il est souverain. Et il est aimant. Et il est sage. Il a dit à ses disciples dans la tempête, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Et c'est ce qu'on doit se dire quand on s'inquiète. « Rassure-toi. C'est Jésus. N'aie pas peur. » Souveraineté, amour, sagesse. C'est ça le sas de la confiance. Et pour le vivre, il va falloir combattre. Et ce combat, c'est le combat de la foi. Et c'est un combat qui va se vivre Bible en main. Parce que il va falloir qu'on se rappelle régulièrement qui est celui qui est avec nous, qui est ce compagnon. Et la Bible va le faire chaque jour à nous rappeler qui est notre Dieu. C'est un combat qui va se livrer dans la prière. Avec un prière à un Dieu de grâce à qui on peut lui dire « Seigneur, après toutes ces années, je te demande pardon, je n'arrive pas à te faire confiance. Rappelle-moi qui tu es. » Et prions intentionnellement. Quand je suis inquiet, après avoir lu ce livre, la nuit, eh ben, je prie un Dieu souverain. Je prie un Dieu aimant, je prie un Dieu sage. Et ça nous aide à nous adresser à un Dieu qui est souverain, sage et aimant. Et puis, ce combat de la foi, il se livre Bible en main, il se livre dans la prière, il se livre en Église. Nous sommes entourés de frères et sœurs qui ont le même Dieu. Et pensons, quand on s'encourage les uns les autres, à ne pas être comme dans le monde en disant « t'inquiète, ça va aller, ouais, t'inquiète, ça va aller ». Moi, c'est la réponse que je déteste, en fait. Ça veut dire juste « ok, on parle d'autre chose, j'ai rien à te dire ». Non, rappelons-nous, avec tact, sans être donneur de leçons. Oui, je comprends. C'est vrai, ce que tu vis, c'est lourd. C'est vrai, ce que tu vis humainement, ça fait peur. Mais nous avons un Dieu qui est souverain. Il maîtrise. On a un Dieu qui nous aime. Il ne va pas faire des choses qui sont contre nous. Et on a un Dieu qui est sage. Ce qu'il va faire, c'est ce qu'il faut faire. rappelons-nous, profitons les uns des autres pour nous rappeler qui est Dieu. Alors face à l'inquiétude, allons-nous choisir la foi? Allons-nous choisir d'écouter la parole? Allons-nous choisir de nous adresser par les prières à un Dieu souverain, aimant et sage? Allons-nous nous encourager les uns les autres dans nos craintes à regarder à Jésus? Puis-je faire confiance à Dieu? Oui, par la foi, en traversant avec Jésus, notre compagnon, le sas de la confiance, en nous appuyant sur un Seigneur qui est souverain, aimant et sage, et qui nous dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Je vais prier.